Arrache, tu vois ce que je vois?
Ouais, je le vois. C'est la moto de Canada dans Akira. C'est un skin original placé sur une moto de base.
Non, pas la moto. Oublie la moto.
Bonjour et bienvenue dans La Moto de qui déjà, le podcast qui, avec vous, essaie de répondre à cette question séminale. C'était la moto de qui déjà ? On s'envoie Ready Player 2, et c'est plus qu'un club de lecture, c'est une cellule de soutien psychologique, puisque ces derniers chapitres ont été vraiment, vraiment très compliqués. Je suis Benjamin François, et pour essayer de trouver à qui appartient la fameuse moto, je ne suis pas seul, j'ai avec moi deux sémillants chasseux, à savoir d'un côté Camille. Bonjour Camille.
Bonjour.
Et de l'autre côté, Brice. Salut Brice.
Bonjour.
Alors, ces chapitres, c'était les chapitres 12 à 16. On s'était dit, allez, on est chaud, on va s'en faire 5 d'un coup. Et ben, c'est compliqué. Et on se disait hors antenne avant de commencer qu'on n'avait pas grand-chose à dire. Et alors, c'est ça qui est fou. On s'est envoyé 5 chapitres. Et alors que pour le précédent épisode, j'avais 14 pages de notes. Pour cet épisode, j'en ai 5. C'est vous dire si, en fait, c'est compliqué, mais on va y revenir. Alors déjà, on avait laissé nos personnages au début d'une partie d'un jeu vidéo qui s'appelle Sega Ninja. Et c'est là où on en était au début du chapitre 12. Wade allait s'envoyer une partie de Sega Ninja dans le même bowling que là où il avait fait sa partie de Pac-Man dans Ready Player One. Et ben voilà, la partie de Sega Ninja, c'est donc parce que c'est le jeu qui était décrit par la précédente énigme avec cette histoire d'héroïne qui avait été remplacée par un héros. Et là-dessus, avant qu'on attaque, je tiens à remercier Shenron sur le Discord, qui est une de nos plus grandes expertes en matière de Sega et qui nous a signalé que Sega Ninja n'est pas le premier jeu vidéo avec une héroïne, évidemment. Donc Ernest Cline n'a pas fait ses devoirs correctement, puisque déjà bien avant Sega Ninja, il y avait Ladybug, il y avait Miss Pac-Man. Et puis si on se limite au personnage humain, il y avait un autre jeu de Sega avant qui s'appelait Girls Garden et qui était avant Sega Ninja. Donc voilà. Ernest Cline n'a pas fait ses devoirs, mais ça surprend qui après tout hein? Est-ce qu'il y a des gens qui sont surpris? Vous êtes surpris de savoir qu'il n'a pas fait son boulot?
Pas du tout.
Très bien.
Il n'y a tout simplement pas joué. Voilà, et donc ça n'existe pas pour lui, quoi.
Voilà, c'est ça. Je pense que n'ayant pas connu ces trucs-là dans son enfance, ça n'existe pas. Voilà, c'est exactement, c'est la bonne définition. Alors, ce chapitre 12, moi, je sais pas vous, alors qu'est-ce que quelqu'un veut résumer rapidement ce qui se passe dans le chapitre 12? Ça devrait aller très vite, hein, en gros.
Oui! Oui, je suis prêt.
Oui.
Ah, vous allez,
vas-y.
Vous battez pas.
Ouais,
Brice,
tu étais
le plus rapide, Brice, malheureusement. C'est comme ça que ça marche. Vas-y, Brice.
Je peux le faire en moins de 10 mots.
Vas-y.
On a un let's play de Sega Ninja.
Ok, moi j'avais playthrough only commentaries.
Et oui, c'est très bien. C'est exactement ce qui se passe. Et alors, je sais plus si j'avais dit à quel point ça m'avait fait chier sa description de sa partie parfaite de Pac-Man dans Ready Player One, mais au moins ça durait 2 pages. Là, ça dure un chapitre entier et il décrit tous les niveaux un par un. C'est absolument horrible.
C'est un let's play de nos vidéos. En fait, c'est horrible. C'est comme un enfant qui te raconte sa journée à la piscine avec aucune image, rien.
C'est
infernal.
C'est tellement ça. Alors non, j'adore. Oui, Brice.
Je vais vous avouer quelque chose, hein. J'espère quoi pas m'éjecter de ce podcast pour ça. C'était la première fois en plus de 50% de bouquins que j'ai sauté certains paragraphes quoi. Je voyais des paragraphes qui commençaient par un numéro de niveau dans le jeu. J'allais pas plus loin. Je passais au paragraphe suivant. Le problème c'est que le paragraphe suivant c'était la même chose. Et ça a été ça jusqu'à la fin du chapitre.
Et écoute, j'ai fait la même et je pense que Camille a fait la même aussi.
Peut-être.
Voilà. Non, mais de toute façon, c'est ça qui est complètement incroyable. C'est que déjà, d'une part, ça n'est pas intéressant de base. Mais en plus, le type, il te raconte les niveaux un par un avec... alors là, dans ce niveau-là, les décors, ils sont telle couleur et on rencontre tels différents ennemis. Mais genre, qu'est-ce que t'en as à foutre quand tu lis un roman, quoi? C'est d'un tel inintérêt. Surtout qu'en plus, comme d'habitude, il y a zéro tension dramatique parce que Wade... One crédite le jeu alors qu'il n'y a pas joué depuis des dizaines d'années. Enfin, tu vois, on a encore à ce personnage qui est omnipotent, super fort, qui donc est un expert à tous les jeux vidéo de la planète. C'est ça qui est quand même incroyable, c'est qu'il est quand même précisé dans les chapitres d'avant que Wade, c'est pas l'expert de Sega Ninja, c'est Shoto l'expert de Sega Ninja. Mais là, c'est Wade qui joue et il one crédite le jeu quand même. Genre, il perd deux vies.
Il se fait conseiller.
Ouais, super. Enfin, je veux dire, on s'est tous fait conseiller. Hein. Moi, perso, j'en ai fait des parties de Street Fighter 2 avec mes copains qui me disaient au-dessus de mon épaule ce qu'il fallait que je fasse. Hein. Mais franchement, c'est oh là 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 là, c'est extraordinaire. Donc, il perd deux vies très très vite dès le début, mais ensuite, il est in the zone. Et là, il perfecte le jeu. Enfin, c'est incroyable. Ce qui est vraiment super, c'est... Au début du chapitre, vous avez noté, quand il se retrouve de nouveau dans le bowling, il se sent obligé de préciser à quel point, avec l'Oni, tout est mieux. Parce qu'avant, il n'avait pas l'Oni, donc c'était pas pareil. Tandis que là, ça sent le pepperoni, mais genre, Ernest, t'as oublié qu'il y avait déjà des trucs d'Odorama dans ton précédent bouquin ? Ah, il ressent les vibrations aussi des basses de la musique. Ernest, t'as oublié que tu nous précises à chaque paragraphe qu'il porte des combinaisons haptiques ? Mais comme c'est l'Oni, bah, c'est forcément plus mieux. Ah là 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 là, ça va me manquer quand il n'en parlera plus, hein, à quel point l'ONU s'est mis. Oui.
Il y a une autre chose qui ressent et il tient absolument à le dire, parce que faut préciser que pendant tout ce chapitre, il est dans la peau de Kira.
Alors oui, j'allais y venir.
Et c'est la seule phrase que j'ai notée.
Ah. Voilà, c'est la seule phrase surlignée du chapitre pour moi aussi, puisqu'il ressent les seins de Kira.
Ben oui, il a les seins de Kira, c'est le premier truc qu'il note en fait, parce que voilà. Il découvre, en voyant son reflet dans un miroir, dans une vitre, je ne sais plus, qu'il est Kira, qu'il est dans le corps de Kira. Et la première chose qu'il dit, ah ouais, j'ai aussi ses nichons. Il aurait pu dire, j'avais ses mains, ses yeux, enfin, il le dit après. Hein. Non, le premier truc qu'il dit, c'est, j'avais ses nichons.
Non, c'est, ouais, j'avais aussi ses nichons, parce voilà. Que la tournure de phrase est importante. Hein. C'est le premier truc qu'il remarque. Il rebondit sur rien d'autre d'ailleurs. On passe du temps là-dessus. Hein.
Mais je m'étonne presque qu'il ait pas précisé qu'il commence par se palper les nichons pour voir ce que ça fait en fait. Parce que c'est typiquement ce que j'imagine qu'il aurait pu faire ou ce qu'il a fait d'ailleurs, c'est mais vrai. Il le dit pas. Juste avant le passage sur les nichons de Kira, moi j'ai noté qu'il précise que le bowling a deux zones séparées. Au niveau de la pizzeria, t'as celui où il y a les jeux vidéo et celui où tu peux dîner, mais en fait l'étape pour dîner aussi c'est des bandes d'arcade cocktail. Mais du coup, pourquoi tu précises? On s'en bat les couilles, il y a des bandes d'arcade partout, alors c'est ça le truc. C'est incroyable. Il faut toujours plus de jeux vidéo partout, parce qu'il faut des jeux vidéo partout, tu vois. Ça me rappelle le Low Five, dont le premier truc qu'ils vont faire quand ils auront plein d'argent, c'est se faire un sous-sol avec des jeux vidéo, parce qu'ils en ont pas assez.
D'ailleurs, on a plus de nouvelles d'eux. Hein.
Ah non, ils ont disparu, ouais, effectivement, et ils ne réapparaissent pas, même dans les chapitres suivants. Hein. On le rappelle, hein, c'est quand même bien dommage, parce que ça pourrait aider hein, d'avoir 5 personnes de plus, mais oui, tu fais bien de le préciser. Puisqu'on parle de jeux vidéo, j'ai noté qu'une fois de plus, Ernest Cline n'a pas fait ses devoirs, puisqu'il précise qu'il y a des nouvelles bornes par rapport à la fois où il a joué à Pac-Man, et il note, il y a un Golden Axe, il y a un Final Fight, et il y a un Sega Ninja tout neuf. Alors Golden Axe, ça date de mai 1989, Final Fight, ça date de décembre 1989. On t'explique après qu'en fait, la scène se déroule en 1988, donc déjà, bon bah, hors sujet, merci Ernest. Et que la bande d'arcade toute neuve de Sega Ninja, un jeu de 1985 à côté d'un Final Fight, eh ben écoutez, si vous voulez, mais moi je trouve que ça ne fonctionne pas en ce qui concerne la chrono. Mais de toute façon, ça aussi c'est pareil, la chronologie, Ernest, il s'en bat les steaks, on le sait depuis le précédent bouquin. Voilà, donc c'est là que je me suis permis, hein, comme j'avais déjà fait le Turbo Nerd sur les bandes d'arcade dans Wonder Woman 84, je me suis dit, je vais continuer. Donc voilà, et ensuite, voilà, mes notes, c'est interminable description d'une partie de Sega Ninja sur 4 pages.
C'est ça. Ça me semble correct comme note. Ouais. Hein,
et il n'y a pas grand chose de plus à dire. C'est ça qui est triste, quoi. Il te précise
qu'il
n'y
a... rien.
Il te parle un peu de la musique dans le fond. Alors, avec trois morceaux qui reviennent en boucle, dont deux que je ne connaissais pas et un qui est Jesse's Girls de Rick Springfield. You know que je connais uniquement depuis que je vis aux US, parce que ça fait partie de ces trucs qui sont cultes aux US, mais pas ailleurs. Et ça, on va beaucoup en reparler dans les chapitres suivants. Et sinon, ouais, j'ai noté qu'il perd toutes ses vies au niveau 4, sauf une, et ensuite, il finit le jeu tranquille, pépère, easy, quoi. Donc, voilà, c'est triste hein, qu'on ait rien de plus à dire. On a évacué ça en 5 minutes, et c'est pour ça que cet épisode risque d'être assez court, parce que les chapitres suivants, c'est pas beaucoup mieux. Parce que qu'est-ce qui se passe à la fin du Sega Ninja ? Eh ben, il a terminé le jeu, et là, il ressent quelqu'un qui tapote sur son épaule. Mais qui tapote sur l'épaule de Kira ? Qui veut se dévouer ? Camille, qui tapote sur l'épaule de Kira ?
Bien sûr, c'est évidemment Og, version adolescente.
Et oui, puisque cette fameuse partie, c'était la rencontre, la première rencontre entre Kira et Og. à l'été 88. Donc voilà pourquoi je disais que Golden Axe et Final Fight, hein, dans le cululu.
Mais quel enfer. Mais t'imagines, parce que Hogg, il l'a fait, ça.
Ouais.
Hogg a vécu sa première rencontre, mais de l'autre côté.
C'est d'ailleurs dit dans le bouquin. Ah, ça a dû lui faire bizarre. Oui, ça a dû lui faire horrible, surtout. Franchement. Alors, il y a une question que moi, je me suis posée. C'est, il y a un dialogue entre Hogg et donc Wade slash Kira. C'est que dans les choses que Wade dit, est-ce que c'est lui qui parle, qui a la maîtrise des paroles qu'il est en train de prononcer, ou est-ce que c'est les choses que Kira a dites et que, si vous voulez, la simulation lui fait dire. Est-ce que vous... Moi, ça m'a un peu perturbé, en fait. J'ai eu du mal à me... J'essayais de m'intéresser désespérément et de m'accrocher à quoi que ce soit, si vous voulez. Et je me suis
moi,
dit...
Je pense que c'est un souvenir. Donc, il doit ressentir le fait de les dire, tu vois, mais c'est pas quelque chose qu'il dit de son plein gré, c'est quelque chose que Kira a dit, que lui ressent, tu vois.
D'accord, donc il a pas de liberté de parole.
Non, je pense pas. Je pense que c'est un truc de l'ONI, c'est comme les partous à 50 ou surfer à Hawaï, c'est un truc qui est déjà préenregistré et tu peux pas gérer ton corps ou tes mots.
Oui, c'est
d'accord,
vrai, parce
mais
que... Vas-y, Brice.
Du coup, comment il a joué pendant tout le chapitre précédent? Et parce que j'étais aussi perdu que vous, hein, je me posais la
question.
Ta
gueule, c'est magique.
Voilà, c'est ça. Moi, j'ai juste écrit, mais il recrée la scène ou il la revit, c'est comment, je sais pas. C'est la seule note que j'ai, que j'ai dû prendre sur ces 5 chapitres. Donc, je suis aussi paumé que vous.
Bon, alors, c'est intéressant que ça nous ait dérangé tous les trois, parce que c'est vrai que jusqu'ici, l'ONI, ça consistait à revivre quelque chose que quelqu'un avait déjà vécu, mais il a jamais vraiment insisté sur le libre arbitre, en fait, quand tu es dans l'ONI. Parce que revivre ce que vit, par exemple, un surfeur qui est en train de surfer une vague gigantesque, bah oui, mais si tu sais pas surfer et que t'as le libre arbitre, tu vas te tôler, quoi. Donc, ouais, j'ai vraiment du mal à savoir à quel point on est libre de ses mouvements, ou est-ce que c'est vraiment juste du ressenti, en fait.
Après, c'est peut-être une instance spéciale dans l'Oasis, puisque tu peux aller dans l'Oasis avec l'ONI, ou c'est juste que ton personnage est Kira, quoi, tout simplement, et du coup, tu le bouges comme ça.
Tout à fait.
C'est juste qu'il ne le précise pas, quoi.
Mais c'est juste que, voilà, ça l'aurait fait un peu mal au cul de devoir préciser son propos plutôt que de balancer des trucs dont personne, tout le monde se branle, en fait. Notamment...
C'est ça.
Notamment cette petite phrase sur le fait que, au Royaume-Uni, le jeu que Kira connaissait, c'était Ninja Princess. Et pas Sega Ninja, ce qui est entièrement faux. Hein. La version Ninja Princess, c'est uniquement au Japon, et je doute qu'au Royaume-Uni, on s'amuse à importer des bandes japonaises. D'ailleurs, il me semble que légalement, ce n'est pas autorisé.
Non, je crois que c'est...
Donc, voilà. Donc, ça, c'était juste comme ça, histoire de... Donc, je ne sais pas si c'est Kira qui joue à la maline ou si c'est Wade qui a voulu faire le mariole et qui s'est tollé, sachant qu'en plus, au chapitre précédent, il ne connaissait pas l'histoire. Hein, donc, c'était rigolo. Et donc, que se passe-t-il? Eh bien, il y a un combat... Un combat contre le fameux ninja. C'est-à-dire que l'énigme le laissait sous-entendre, hein, c'est que le ninja qui remplace la princesse dans le jeu occidental allait être le fameux boss. Et que dire sur ce combat? Eh ben rien, parce que Ernest Cline n'en dit quasiment rien.
Son intro, peut-être.
Ouais, vas-y, Brice.
Son intro, c'est donc ce premier date, cette première rencontre entre Kira et Hogg, et on a un Hallyday qui débarque. Donc, après avoir passé tout un bouquin à nous peindre vraiment Hallyday comme un personnage génial et parfait et tout ça, là, maintenant, une fois qu'on nous a montré que sa version IA était méchante, maintenant, c'est bon, on peut dire du mal de lui, apparemment, puisque il vient, mais il est extrêmement relou. Il demande à rentrer.
Ouais, voilà, on peut en faire un connard. C'est, c'est ça, tu as raison. Il est jaloux, voilà. Donc il veut se barrer, quoi.
Et il commence à piquer sa crise, il saute à pieds joints sur le sol. Et là, c'est suite à ça, en fait, que tout se met en pause et qu'il se transforme en ce boss.
Donc c'est bien, on a des personnages qui évoluent.
Non, mais surtout, je trouve ça dingue parce que quelques pages avant, on nous explique que Wade a déjà lu plein de trucs dans la biographie, encore cette espèce de délire de fanservice et de mec complètement obsédé par Hallyday. Et la page d'après, il se transforme en odieux connard. Il y a même une allégorie faite avec un serial killer que je trouve pas du tout ok, en fait, parce qu'il y a aucun. Il n'y a aucun signe de serial killer dans cette histoire, on est d'accord?
Ouais, alors je l'ai noté aussi, c'est quelques pages plus tard, où en gros, H commence à dire que Hallyday était un sociopathe, et Wade qui dit qu'il se retient de le défendre, mais ensuite, il le décrit comme un complet sociopathe, en fait, genre 5 lignes plus bas. Genre, mais ok, pourquoi pas? Mais donc, notre sociopathe donc, se transforme en ninja, et là, il y a un combat un combat entre Wade et le ninja. Et Ernest Cline préfère encore perdre du temps à nous parler de l'ONI et de comment c'est génial plutôt que de décrire le combat. C'est absolument incroyable. T'as genre 10 lignes pour parler de l'ONI et de comment le combat allait se passer et 5 lignes pour le combat. Et le combat, en gros, c'est « Ah là là, il était super fort, mais j'ai balancé tout un tas de couteaux et je l'ai battu. » Point. Et si vous croyez que j'exagère, vous avez tort. C'est exactement ça.
Non, non, c'est ça.
Que se passe-t-il ensuite ? Alors ensuite, j'ai noté, on parle de la planète Lambert, parce qu'on essaie de résoudre l'énigme. Et Alors l'énigme, bon, je vous l'épargne, hein, c'est encore une énigme à la con, c'est encore un truc qui est complètement foireux et tiré par les cheveux. Et donc, nos héros se lancent dans des hypothèses. Alors, est-ce que ça pourrait être Greystoke ? Ah oui, Greystoke avec le mec qui joue Highlander, qui joue Tarzan. Et là, on te name drop la planète Lambert. Alors, moi, je veux visiter la planète Christophe Lambert. Je sais pas vous, mais j'ai envie de... Est-ce que je crois que c'est une planète où tous les gens, ils rigolent comme ça. Moi, franchement, j'ai trop envie. Et là, on te name drop... Après une bonne page entière de recherche. Alors, est-ce que c'est à ce moment-là que Artemis revient ou est-ce que c'est au chapitre suivant ? Est-ce qu'il trouve Pretty in Pink sans Artemis ? Je ne sais plus. J'ai déjà oublié. Tu vois, c'était vendredi et j'ai déjà oublié.
Ouais, je crois que c'est le suivant, moi. Il me semble que c'est le suivant. Mais encore une fois, tout se ressemble.
Moi, j'ai noté Pretty in Pink pour le chapitre 13. Hein.
Moi, pour le. Alors, il y a plusieurs références. Il y a trois références, je crois, au film sur trois chapitres différents. 13, 14, 15. Si ouais. Je fais pas de conneries. Ou alors 14, 15, 16, je sais plus.
Écoute, je vais, je reprends mon livre. Artemis revient bien dans le chapitre 13. Elle revient avant cette fameuse conversation okay. où ça parle de sociopathie. Mais donc, il doit... Voilà, c'est ça. Il y a une référence à Pretty in Pink avant même qu'elle arrive. Donc, en gros, c'est Wade qui pense à donc Andy Walsh, qui est le personnage de Molly Ringwald dans Pretty in Pink. Et alors, Pretty in Pink, est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous connaissez le film Pretty in Pink ?
Pas du tout. Absolument pas.
Qui s'appelle en français...
Rose Bonbon.
Voilà, Rose Bonbon, qui est un film écrit par John Hughes et réalisé par Howard Dutch, sorti en 1986.
Jamais entendu parler.
Alors, est-ce que tu connais Molly Ringwald, l'actrice ?
Non.
Alors, moi, j'ai googlé, et son visage m'a rappelé quelque chose, mais après, je suis une horreur en nom d'acteur.
D'accord, et donc, tu as quand même été obligé de googler. Alors,
ah oui, bien sûr.
C'est le moment, et je vais en parler maintenant. Quoique, non, je ne vais pas en parler maintenant. Ça va être un moment où il va falloir qu'on parle de Molly Ringwald et donc de la filmographie de John Hughes. Ça tombe bien, c'est ce que fait Ernest Cline dans les deux chapitres suivants, ou trois chapitres suivants. Mais déjà, quand j'ai vu qu'il a name-droppé Pretty in Pink, je me suis un peu renseigné, j'ai vu que c'était un film de John Hughes, donc je me suis dit, je vais essayer de le voir. Et le film n'est pas sur Netflix, et en gros, c'est un petit peu galère pour le voir, en tout cas aux US à l'heure actuelle. Malheureusement, je ne l'ai pas vu, donc Pretty in Pink, malheureusement, toutes les références dont il va parler ensuite me passent un petit peu au-dessus de la tête. Mais heureusement, ça n'est pas très long, hein, mais en gros, Wade a déjà quasiment résolu l'énigme. Enfin, il a une bonne idée de comment résoudre l'énigme. Mais ensuite, ça commence à essayer de deviner ce que peut être la fameuse Siren Soul. Et on avait bon.
Oui, complètement.
Parce que... Ils sont en train de dire que, en fait, ça doit être une copie en IA de Kira, en fait. Donc là, j'ai écrit « Called it » en gros sur mon cahier, parce que j'étais très fier. Donc ça y est, a priori, il y a peu de chances que ça change, hein, vu que Wade, comme c'est le personnage qui a quasiment jamais tort et qui a toujours les bonnes intuitions, a priori, il a raison. Donc c'est le moment où on va attaquer ce fameux chapitre 14. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, entre le moment où Wade parle de Pretty in Pink et de John Hughes, puisqu'il a compris que le Andy, c'était donc une référence à ce personnage de Molly Ringwald dans Pretty in Pink. À partir de ce moment-là, Artemis arrive, elle lit l'énigme, et là elle fait « TKT bébé, je gère ». Et à partir de là, c'est du pilotage automatique où il se contente de suivre Artemis qui sait tout.
Parce qu'on va dans son monde.
Parce qu'on va dans son monde, on va dans le monde. On va sur la planète Sherman, qui est l'univers des films de John Hughes. À savoir les films qu'il a écrits ou qu'il a réalisés. Parce que Pretty in Pink, il l'a pas réalisé, il l'a juste écrit. Et donc voilà, c'est le moment où je vais parler des films de John Hughes. Alors parce que c'est un sujet que moi je trouve extrêmement intéressant. C'est tous ces films, alors il n'y a pas que ceux de John Hughes, hein, y en a plein, mais c'est ces phénomènes d'œuvres culturelles qui sont absolument culte aux USA que tout le monde connaît. Et franchement, hein, c'est pas une surprise que Ernest Cline ait choisi ça parce que tout le monde les connaît, ces films ici. Mais qu'en Europe, on les connaît pas ou vraiment beaucoup moins. Alors, perso, des films de John Hughes, avant de vivre aux USA, j'en avais jamais vu un seul. Je sais qu'en France, les plus célèbres, ça va être Ferris Bueller et Breakfast Club. Mais même ceux-là, je les avais pas vus avant de vivre aux USA. Je les ai vus depuis. Mais j'ai aussi vu 16 Candles, donc 16 bougies pour Sam, avec une fois de plus Molly Ringwald. J'ai vu Weird Science, qui est la version film de Code Lisa, qui était donc un film de John Hughes. Mais Pretty in Pink, je ne l'ai pas vu. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que il te fait le top 4 donc des films de John Hughes, donc 16 Candles, Breakfast Club, Ferris Bueller et Weird Science. Mais Pretty in Pink n'est pas dedans, mais c'est le film le plus important pour l'énigme, hein, évidemment. Alors vous, c'est là que je vais un petit peu vous donner la parole parce que j'ai beaucoup parlé. Quel est votre rapport avec les films de John Hughes? Est-ce que vous en avez vu? Est-ce que vous avez entendu parler? On va commencer avec Camille.
Moi, j'ai vu Breakfast Club il y a de ça plusieurs années. J'en ai pas un souvenir impeccable et je pense que c'est le seul film que j'ai vu.
D'accord.
Donc, une relation particulièrement distante, quoi. On n'est pas du tout fusionnel. Il n'y a aucune connaissance. Non, rien.
D'accord. Et toi, Brice?
Alors, t'as bien fait de préciser dans ta phrase précédente un petit peu donner la parole puisque, effectivement, j'ai très peu de choses à dire. J'ai dû voir Ferris Bueller à l'école. J'ai dû le voir au collège, en fait, parce que quelqu'un a dû se ramener avec la VHS. Mais sinon, les autres films, bah non, j'ai dû les taper dans mon moteur de recherche à chaque fois, quoi. Mais il faut savoir que là, cette planète et ces trois prochains chapitres, c'est un peu un cauchemar personnel parce que pendant les trois chapitres, j'ai eu l'impression d'écouter un podcast cinéma, quoi. Et j'aime pas ça.
Alors, un podcast cinéma qui parlerait que de films dont t'as jamais entendu parler, en fait. C'est un peu ça le problème. Il faut savoir que John Hughes a pas forcément réalisé beaucoup de films, hein. Dans sa filmo, il y en a 8. Par contre, il en a écrit une tripotée et produit une tripotée. Et Ernest Cline a insisté pour placer Home Alone, donc Maman, j'ai raté l'avion, qui est réalisé par Chris Columbus, mais qui est bien écrit par John Hughes. Mais en revanche, tous les films dont on va parler là et qu'il a réalisé, presque tous, sont tous sortis dans les années 80. Alors, moi, perso, j'étais déjà jeune. Alors, vous êtes encore plus jeune que moi, j'ose même pas imaginer, si tu veux. Donc, ça me surprend pas que tu l'aies vu à l'école, parce que Ferris Bueller, bah oui, c'est 86. Hein, donc, moi, j'avais 6 ans, j'étais déjà trop jeune à l'époque pour le voir. Mais John Hughes, en réalisateur, voilà, sa carrière s'est arrêtée en 91, en fait, en matière de réalisation. Mais ensuite, il a continué d'écrire et de produire des films. Donc, il a produit, par exemple, Denis la Malice, le live des 100 Dalmatiens avec Glenn Close, Flubber et tout un tas de choses comme ça.
Ah,
c'est okay. Oui, c'est un mec de comédie familiale, quoi.
Voilà. Et ces films, les films qu'il a réalisés, il était connu pour les teen comédies, en fait. Et il avait son actrice fétiche, donc Molly Ringwald, qui est l'actrice principale non seulement de 16 Candles, mais aussi de Pretty in Pink. Que pour le coup il n'a pas réalisé, était considérée comme sa muse. Donc elle a joué dans énormément de films réalisés par John Hughes. Il a aussi réalisé des trucs qui étaient un peu plus des comédies moins orientées teen, comme Un ticket pour deux, qui s'appelle en VO Planes, Trains and Automobiles, qui est un film avec Steve Martin et John Candy. Et perso, c'est typiquement un film qui est ultra culte aux USA, que beaucoup de familles se revoient pour Thanksgiving, parce que c'est un film de Thanksgiving, mais qui est complètement inconnu en France. Et ça, toutes ces œuvres qui sont cultes aux US et inconnues en France, c'est un sujet que je tanne Daniel depuis des mois, pour pas dire des années, pour le faire dans After Eight, et il traîne des pieds. Et ben voilà, bravo Daniel, à cause de toi, on n'a pas compris les trois chapitres de Ready Player Two. Voilà, c'est la faute de Daniel, j'ai envie de le charger.
C'est toujours la faute de Daniel.
Quelque part, c'est toujours la faute des socialistes. ces trois chapitres qui sont absolument horribles, mais on nous introduit à un nouveau concept. Et ce concept, c'est le needle drop. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un needle drop? Eh bien, tout simplement, c'est ce qu'on pourrait appeler de la musique contextuelle. Dans un jeu vidéo, on appellerait ça un score d'Olivier de Rivière, c'est-à-dire la musique qui suit l'action. Sauf que là, c'est des chansons, en fait, qui se déclenchent en fonction d'interactions contextuelles. Donc là, on a un needle drop, par exemple, à un moment du fameux « Oh yeah » de Yellow.
Oh yeah. some.
Générique de fin de Ferris Bueller.
Voilà, c'est un morceau qui est utilisé, réutilisé dans Ferris Bueller, parce que t'as le morceau entier en générique de fin, mais t'as plusieurs fois le oh yeah pendant le film. Il y a un passage où il parle de 16 Candles. Alors 16 Candles, je voudrais revenir dessus. Alors attends, pourquoi j'ai écrit Rage Quitting 16 Candles? J'ai oublié pourquoi j'ai noté certains trucs. J'aurais dû mettre plus de détails, mais c'est que d'habitude, j'ai moins de mal à me souvenir.
T'as probablement Rage Quit le bouquin à ce moment-là avant d'y revenir plus tard.
Non, c'est même pas pour ça. Mais globalement, le problème avec ces trois chapitres, c'est qu'il ne se passe pas forcément, il ne se passe pas grand-chose. Et surtout, c'est du trivia IMDB, quoi. C'est de lecture
j'ai
de...
J'ai noté IMDB.
Ouais, bah, vas-y, Camille.
Non, mais c'est juste que pour moi, c'était la continuité de l'autre chapitre. Avant, on avait Twitch, là, on a IMDB. Enfin, tu vois, on passe d'une plateforme à l'autre. Ça m'a balancé, c'est très simple. Pendant les derniers chapitres, je me suis mangé une volée de références que je ne pigeais rien, auxquelles je pigeais rien, c'était, enfin, j'ai passé un mauvais moment, quoi. Et donc, du coup, c'est difficile d'en tirer des conclusions ou d'avoir des traits d'esprit quand tu piges pas du tout le gloubi-boulia qu'on te sert. Tu peux pas vraiment analyser la chose, quoi.
Mais c'est ça, c'est une accumulation de noms d'acteurs, de noms de personnages, de noms de lieux, de situations qui se passent dans les films.
Non, et en plus, t'as des parallélismes qui sont faits entre deux films avec deux acteurs qui ont deux rôles similaires et des trucs comme ça. Enfin, moi, j'ai rien pigé, quoi. Le truc avec Robert Downey Jr. sur la fin, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Excusez-moi.
Ah là là, tu spoil.
Oui, pardon,
tu spoil. Bon, après, non, mais après...
C'est notre invité surprise.
On peut pas t'en vouloir. Les chapitres 14, 15, 16, tu peux les coller, en fait. C'est la même chose, c'est la même merde sur les trois chapitres, en fait. Et effectivement, il y a Robert Downey Jr. qui apparaît, puisque Robert Downey Jr. a un rôle dans Weird Science, donc dans Une créature de rêve. Il a un petit rôle, mais justement, voilà... L'énigme tourne autour de Robert Downey Jr. Alors, ce qui est complètement incroyable, c'est Artemis, donc qui pendant les trois chapitres, c'est les montagnes russes en fait. Elle, c'est le wagon de tête, et les autres, ils se contentent de suivre. Elle a tout compris, elle sait absolument tout comment tout faire. Et alors, moi, il y a un truc que ça m'a rappelé, c'est que évidemment, la fille cis hétéro était fan des teen comedies avec Molly Ringwald en héroïne, donc elle adore John Hughes. Et si tu veux, moi, j'ai rapproché ça de Kira, qui pour le coup avait des goûts vachement mainstream, parce que les films de John Hughes, il y a quoi de nerd là-dedans? Rien du tout, quoi. C'est du supra mainstream, c'est du supra grand public. Et en gros, il est en train de nous faire une Kira avec Artemis, là. Il est en train de nous dire, bah oui, non, mais Artemis, c'est une fille, donc elle adore ces trucs-là, les trucs pour filles.
Bah, j'aurais voulu rebondir, mais j'ai pas compris, donc du coup, c'est difficile d'émettre une.
Putain, j'ai des notes que j'ai prises, je ne sais plus ce que ça voulait dire. J'ai noté qu'il y avait un cosplay des héros, en fait, qu'ils étaient en train de cosplayer les personnages.
Oui,
mais,
qu'à un moment, Artemis, elle se fringue, alors c'est dans quel film, mais elle se fringue, ils font des références aux équipes aussi, les Mules, les Tigers,
ouais, les équipes de sport des lycées. Ouais.
Et à un moment, je crois qu'elle a une fourchette en guise de bracelet. Enfin, je sais plus, mais il y a tout un passage comme ça où on explique qu'en fonction du film, elle prend les habits de chacun, en fait, des persos qu'elle connaît, elle fait des références, et voilà, en fonction du... Elle rentre dans le hall, elle s'habille d'une certaine manière, enfin bref. Je crois.
Ouais. Eh ben écoute, ça y est, je me souviens pourquoi j'ai noté Rage Quitting 16 Candles. C'est Artemis qui explique que de nos jours, elle peut plus regarder 16 bougies pour Sam en entier et que le Rage Quit avant la fin. Mais il explique pas pourquoi. Et c'est un truc qu'il va faire plusieurs fois. Il va dire par exemple que tel personnage est super controversé, mais il va pas dire pourquoi, parce qu'il suppose que tout le monde le sait, en fait. Et ça va être un gros problème à l'international, ça. Donc dans 16 Candles, donc 16 bougies pour Sam, Artemis explique, oui, le film je peux plus le regarder jusqu'au bout, maintenant je rage quit. Alors il y a deux raisons pour ça. C'est que, donc on rappelle, c'est un film de 1984, et quand je l'ai vu, j'ai été assez scandalisé pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un personnage qui est une espèce de caricature d'asiatique profondément raciste, et le personnage s'appelle Long Duk Dong, ce qui en gros veut dire long beat, hein, voilà, pour résumer, et laisse tomber, enfin, c'est un stéréotype ambulant, c'est d'un racisme vraiment absolument abominable. Il parle avec un accent à couper au couteau, enfin, c'est horrible. Mais encore plus horrible, à la fin du film, un des personnages abandonne sa petite amie complètement saoule dans une voiture pour que le geek de l'histoire, Anthony Michael Hall, en profite.
Ah.
Donc, il y a tout simplement un viol qui n'est jamais qualifié comme tel, qui est glorifié, qui n'est jamais condamné, jamais puni. Donc, à la cool, dans les années 80, ça posait de problème à personne.
Wow. Et c'est donc ce film-là qui a donné son nom à Samantha. Hein.
Et c'est ce film, donc, qui a donné le prénom de Samantha, voilà, Artemis, puisque c'est 16 bougies pour Sam. Samantha, c'est le personnage principal, interprété donc par Molly Ringwald. C'est pas elle qui se fait violer, hein, c'est un autre personnage qui est plutôt, si vous voulez, la blondasse, un peu pimbèche, mais donc voilà. Quand j'ai vu le film, j'étais un petit peu horrifié. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a énormément de gens qui ont connu ce film quand ils étaient jeunes et ne voient toujours pas forcément le problème, en fait. Parce que, tu vois, ils ont intégré que c'est comme ça. C'était les années 80. Et qu'en faire une relecture avec une vision moderne, c'était pas bienvenu. Mais le truc, c'est que moi, j'ai découvert le film en 2017. Et là, forcément, ça passait pas du tout, quoi. On passe au chapitre suivant. Je note qu'il name drop 80s de Killing Joke. Alors, si vous ne connaissez pas 80s de Killing Joke, eh ben, je vous invite à écouter le Growlcast, notre épisode sur Killing Joke, puisque tout est lié. Nous aussi, on a un univers partagé. Allez, mange ça, Ernest Cline. Puisque 80s est donc un morceau archi-célèbre de Killing Joke, notamment archi-célèbre puisqu'il a été plagié par Kurt Cobain pour Come As You Are. Voilà, podcast culturel.
D'accord.
Et on attaque le chapitre 15. Et le chapitre 15, j'ai écrit, c'est quand même rudement pratique que Samantha sache exactement quoi faire. Et oui, on continue le roller coaster, en fait. On passe à travers les films, on passe à travers les scènes, on voit les acteurs, on voit les personnages, et puis on comprend pas ce qui se passe parce que Samantha, elle sait tout, mais qu'elle explique rien.
Mais en plus, elle prend des mesures extrêmes.
Et elle prend des mesures extrêmes.
J'étais choqué.
Alors, vas-y, explique. Que se passe-t-il?
Samantha bute un mec.
Samantha bute
elle
un
tue,
mec.
Vraiment.
Voilà. Moi, j'ai noté que je crois que je préférais quand on me décrivait un jeu vidéo. Elle le tue. Alors, qui Samantha va-t-elle tuer? Alors, j'ai fait quelques petites recherches, vu que je n'avais pas vu le film Pretty in Pink, j'ai donc lu le résumé, hein, j'ai fait des efforts, je ne sais pas si vous avez été jusque-là ou si vous étiez déjà assez catastrophé en fait.
Moi j'ai juste googlé pour voir Robert Downey Jr. jeune, après j'ai arrêté.
Et alors ça donne quoi? Est-ce qu'il a beaucoup changé?
Eh ben, il n'a pas tant changé que ça.
Est-ce qu'il était déjà BG? Est-ce que tu y allais?
Non, car je suis majeur, j'ai 29 ans et là il en avait 16,
c'est
donc non, je n'y vais pas.
Il était ado, tu n'y vas pas. Très
alors,
bien.
Alors attends, parce que j'ai pas lu sur Wiki ou autre chose, donc bah, tu compléteras éventuellement. De ce que j'ai cru comprendre, il y a ce personnage en fait qui se fait appeler Duck et qui se comporte comme un gros con pendant tout le film, j'imagine, qui fait des propositions indécentes aux meufs et tout.
Alors, c'est pire que ça, c'est le nice guy, meilleur ami de l'héroïne.
D'accord.
Qui est secrètement amoureux d'elle, mais qui se contente d'être très gentil avec elle. Parce que c'est comme ça que les femmes deviennent amoureuses de vous.
Ok, d'accord.
C'est vrai, je confirme, c'est exactement comme ça que ça se passe.
Donc, alors déjà, Camille, je tiens à rétablir un fait. Lors du tournage, Robert Downey Jr. avait 20 ans, tu peux y aller!
Non, c'est pas possible. Franchement, regarde sa tronche, j'y vais pas.
Alors, mais, il joue peut-être un adolescent, hein, mais il avait vraiment 20 ans.
Ah, putain,
donc, dans le film, Pretty in Pink, donc Rose Bonbon, en fait, c'est une histoire de lutte des classes, puisque ça se passe dans un lycée, t'as d'un côté les riches et les pauvres, hein, bon, jusque-ci, que de choses classiques, et le personnage principal, donc Andy, interprété par Molly Ringwald, fait partie des pauvres. Et elle a avec elle son meilleur ami, donc Ducky, qui est également un pauvre. Mais le truc, c'est qu'un jour, t'as Blaine, qui est un peu... Déjà, il s'appelle Blaine. Enfin, je veux dire, ça pose un peu le personnage. C'est un peu Ricky ou la belle vie, le mec, il est un peu richou, mais il tombe amoureux de Andy. Et à partir de ce moment-là, Ducky devient un complet connard. Alors déjà, c'était un nice guy, mais maintenant, il va devenir vraiment profondément infect, désagréable avec Ducky et tout, avec Andy et tout le bordel. C'est ce que, en gros, j'ai compris de l'histoire. Et il faut savoir que dans le script original, Ducky terminait avec l'héroïne, mais que ça n'a pas plu lors des projections test. Et donc, au final, l'héroïne termine bien avec Blaine, avec l'accord de Ducky qui finalement se rend compte que Blaine est un mec bien.
Attention, t'es en train de faire du IMDb.
Oui, bah, je vous explique un peu parce qu'on a besoin du contexte pour comprendre ce qui se passe.
Oui.
Parce que ce qui se passe, c'est qu'Artemis décapite Ducky. Pourquoi ?
Voilà, et ça a l'air assez graphique, parce que moi je pensais, tu vois, qu'il allait juste disparaître comme dans un jeu vidéo ou autre chose, mais il est quand même évoqué qu'elle sèche le sang en fait de son couteau après.
Ben voilà, moi tu fais bien de le dire, ça aurait pu être, il aurait pu disparaître dans un prout et laisser des pièces comme dans le film Scott Pilgrim, tu vois, mais non. Elle le décapite, la tête roule, les autres meufs NPC qui étaient autour sont horrifiés, s'enfuient, et t'as Artemis très fier qui nettoie son sabre en le remettant dans son fourreau. J'ai visualisé la scène, c'était très bien.
Voilà, sans expliquer au reste de la bande ce qu'elle compte faire, ni en fait, parce que l'histoire c'est qu'elle a compris que dans l'énigme, il y avait un jeu de mots entre Foul et...
c'est ça.
Foul, je crois, je sais plus quel est le mot, voilà. Et donc ça impliquait des canards, et donc canard, donc Ducky, et qu'il fallait le buter, et la suite on l'apprendra dans les chapitres.
On note d'ailleurs que selon Artemis, Ducky est le personnage le plus controversé et celui qui divise le plus des films de John Hughes, donc a priori le gros racisme ou le violeur, c'est moins grave, hein. Bon, pour les échelles de valeur.
Et pourquoi est-ce qu'il serait, controversé, du coup, si c'est ni un violeur, ni un personnage profondément raciste? Qu'est-ce qu'on lui reproche à lui?
C'est un nice guy, en fait. Et donc, il se comporte comme un connard à partir du moment où Andy commence à sortir avec le richou.
Ok.
Donc, c'est pas un mec bien, mais je pense que c'est quand même moins pire qu'un violeur. Bon, après, on va pas forcément faire des comparatifs, en matière d'horreur, mais bon, voilà.
Ok.
Je note qu'il y a un needle drop sur Simple Minds parce qu'évidemment, il fallait qu'on se tape la fin de Breakfast Club, donc le Don't You Forget About Me de Simple Minds, qui est probablement le truc le plus connu de Breakfast Club en France, c'est cette chanson. Et on arrive déjà au chapitre 16. On arrive déjà au chapitre 16 où il est fait mention donc de Languedoc Dong. Donc si vous ne saviez pas qui c'était, ben vous le savez toujours pas, vu qu'Ernest Cline, il explique pas forcément plus que ça. Et voilà l'apparition de Robert Downey Jr.
Ah.
Et là, tu as Samantha qui explique tout le recast, en fait, parce que Robert Downey Jr. devait jouer dans Pretty in Pink. Il devait jouer Ducky dans Pretty in Pink. Et donc, Samantha explique le recast et la nouvelle fin. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Samantha et Wade sont tout seuls, vu qu'ils ont décidé de faire cavalier seul, les autres se démerdent. Je ne sais même plus pour quelle raison ils se séparent, en fait. J'en avais tellement plus rien à foutre.
Ils appellent... Ash et Shoto appellent leur compagne respective.
C'est ça, tu as raison. Ash, sa femme commençait complètement à criser. Et Shoto, pareil, s'est dit « Ouais, je vais peut-être appeler ma femme aussi. » Et donc voilà, le truc qui peut-être m'a le plus profondément énervé,
ouais.
Samantha commence à se rapprocher de Wade.
Oui.
T'as Wade qui lui sort du « Oh là là, je ne savais pas tout ça » quand elle lui sort tout le trivia, alors que c'est lui-même qui l'explique 30 pages plus tôt toute cette histoire de nouvelle fin. Et puis bon, ensuite c'est indigent quoi. Enfin, t'as needle drop sur needle drop, et ensuite name drop sur name drop, et il se donne un rancard. Et alors là, j'ai noté « Mais quoi, fuck ?» Et je sais pas, moi perso, ça m'a rendu complètement fou quoi. Donc on peut le dire, à la fin du chapitre, elle l'embrasse.
Oui.
Alors que mais rien n'a changé dans leur relation. Enfin,
non,
lui,
mais
c'est toujours un... Vas-y.
Tout ce qui s'est passé avant a été oublié. C'est tout ce qui s'est passé avant l'intervention de d'Anorak. Non. Là, on commence, on entre dans Ready Player 2 et l'ancien statu quo est remis et donc ils peuvent refaire des trucs ensemble parce que on s'en fiche quoi.
Voilà, parce que ta gueule, parce que
voilà.
Parce que va te faire foutre lecteur, parce que voilà, Wade qui n'a pas évolué d'un iota, qui reste un énorme connard, qui est toujours un abruti, mais de première, et qui en plus, hein, c'est le troisième fragment d'affilée, où en gros, c'est les autres qui font le boulot pour lui.
Mm-hmm.
Mais non, Samantha se rapproche de lui. Et alors là, on a ce moment que perso, moi, j'ai noté. C'était mon moment qui m'a fait lever les yeux au ciel. C'est ce moment qui a été codé dans l'Oasis, où tu as une chanson qui se déclenche pile dans des circonstances très précises, à savoir quand un avatar regarde un autre avatar plus de 5 secondes, tout en ayant une accélération du rythme cardiaque. Et là, ça déclenche More Than a Feeling. À partir de ce moment-là, j'ai eu envie de jeter le bouquin par la fenêtre. Mais je vous avoue que quand elle l'embrasse, j'ai posé le livre, je me suis dit, c'est pas possible. Il restait 5 lignes pour finir le chapitre, mais j'étais au bout de ma vie. C'était trois chapitres horribles où en gros on t'explique qu'il faut que le Robert Downey Jr. remplace Ducky et qu'il rejoue les scènes de l'autre. On sait pas pourquoi, à un moment t'as le PNJ Robert Downey Jr. qui commence à paniquer, mais ça aussi c'est pareil, c'est résolu au bout d'une page. Mais pourquoi quoi ? Oh là là, quel enfer ! Et honnêtement, je pense que évidemment pour nous c'est pire parce que c'est des films qu'on connaît pas, mais même pour les gens qui connaissent tous ces films, ça doit être d'un chiant. Enfin, j'ai essayé de me mettre dans la peau de si on me décrivait comme ça par l'inventaire tout ce qui se passe dans cinq films que je connais, mais je me serais fait chier mais profondément. Alors je vais pas mentir, hein, j'ai peut-être raté des pépites parce que c'est le moment où j'ai commencé à lire en diagonale quoi. Chapitre 14, 15, 16, il y a des moments où j'ai sauté des paragraphes, vraiment je pouvais plus quoi. J'étais au bout de ma vie, je sais pas vous. Ah,
bah moi j'ai le sentiment qu'on a déjà fait le tour en fait depuis 20 minutes mais en fait non, j'ai rien vu de spécial dans ces dernières pages à part le fait que bah Artemis félicite Wade de faire énormément de choses et d'être un génie alors que le mec était en train de la regarder limite avec un filet de bave au coin des lèvres
c'est ça, le mec fait rien depuis quasiment le début du contest quoi, il fait rien du tout et elle retombe, elle est en train de retomber en pamoison. C'est affreux, c'est abominable, c'est abominable. C'est vachement inquiétant pour la suite du bouquin, quoi. C'est vachement inquiétant parce que moi, je suis de plus en plus persuadé maintenant que Wade va pas changer, que Wade va rester cet énorme con et que Artemis va se remettre avec pour no fucking good reason, quoi.
Probablement.
Ah oui, il y a de grandes chances et puis elle va se remettre en question. Elle va réfléchir, elle va se dire mais en fait t'avais raison depuis le début, Lonnie c'est formidable.
Alors Lonnie c'est formidable, tu t'avances peut-être un peu parce que là ils sont quand même vachement dans la merde à cause de Lonnie, mais c'est vrai que sur le coup elle va peut-être se remettre en question, ouais peut-être qu'en fait ça sert à rien d'aider les pauvres. imagine la morale, c'est ça. En fait ça sert à rien d'aider les pauvres, on va tous partir sur l'Arcadia et on va les laisser crever sur la terre. Quel enfer. Bon voilà, écoutez, c'était cinq chapitres rondement menés, mais c'est, ça me rend triste hein, parce que vraiment, vraiment, il y a rien de plus à dire.
Si,
parce que c'est une si. Brice, vas-y.
Si si, non, moi j'ai quelques petites interrogations à la suite de la lecture de ces trois chapitres. Bon, déjà la première a déjà été abordée. Pourquoi ils en ont fait trois chapitres à la place d'un seul? Enfin, c'est le même bloc, c'est la même chose. Enfin, je crois qu'on a parlé de choses qui sont dans le troisième chapitre, alors qu'ils sont dans le premier. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais non, ouais. La vraie question, c'est est-ce que Hogg a dû tuer un mec aussi?
Non, parce que je crois que Hogg s'est arrêté avant le troisième fragment.
Ah bah c'est peut-être pour ça qu'il s'est arrêté.
Peut-être quand il s'est rendu compte qu'on fait buter un gars. Pff, chier. Mais en même temps, je peux comprendre Hogg. Attends, à la fin du deuxième fragment, on lui fait revivre sa rencontre avec Kira. À sa place, j'aurais arrêté là aussi.
Enfin. Avec sa femme morte.
Voilà.
Ouais, t'as pas tué une femme morte.
Peut-être que Hogg, si tu veux, a joué à Ninja Princess sans se rendre compte qu'il avait les boobs de Kira. Mais qu'ensuite, quand il s'est rencontré lui-même, il a dit c'est bon, c'est là que je...
J'arrête,
j'arrête.
Voilà. C'est bon. C'est fini.
On a franchi ma limite.
Sinon, dans ces chapitres, j'ai beaucoup aimé une intervention de Aesh, donc plus personne ne parlera plus tard. Hein. Aesh regarde en fait tout ce qui se passe pendant ces trois chapitres et finit par dire « C'est quand même vachement blanc tout ça
!» C'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est évidemment, les films de Howard Hughes, c'est du teen comedy avec quasiment que des blancs. Mais dans le même temps, est-ce que c'est un mal? Parce que quand il essaie d'introduire un personnage issu de la diversité, c'est un horrible stéréotype raciste quoi.
Et je sais plus trop ce que Samantha lui répond, mais elle lui répond une connerie du genre c'était les années 80, c'était pas super diversifié au cinéma, mais t'inquiète pas, les noirs ils sont dans tel coin,
ils sont parqués dans tel quartier.
Oui, c'est ça. Et elle dit ouais, ils sont dans ce coin là-bas au fond, là où c'est gris et morne,
là où personne va. Quel enfer. Ah, putain. C'est dur. Oui, tu fais bien de le préciser. Et ça me rappelle encore autre chose. C'est qu'à un moment, et ça, c'est quelque chose qu'a relevé notre ami Dylan sur le Discord, c'est que Shoto, à un moment, fait une blague après que Samantha décapite donc le personnage de Ducky. Shoto fait une blague, et alors c'est un jeu de mots sur, je me rappelle même plus ce que c'est exactement, mais
thanks for the heads up,
avoir la tête sur les épaules ou une connerie comme ça. Oui, tu disais.
C'est pas une connerie du genre thanks for the heads up ou quelque chose comme ça.
C'est ça, c'est ça, c'est ça. Thanks. Alors c'est intraduisible, mais j'imagine que le traducteur fera un truc du genre avoir la tête sur les épaules, un truc comme ça. Et effectivement, ce qui est rigolo, c'est de se dire que Shoto depuis le début communique via un logiciel qui fait de la traduction. Donc il est censé communiquer avec un certain lag le temps que le logiciel fasse la traduction, et que ce logiciel de traduction a réussi à traduire le jeu de mots, en fait, a compris le contexte, ce que évidemment n'est pas forcément, est un peu idiot, quoi. Donc voilà, écoutez, c'était compliqué.
Moi, j'avoue que j'ai un peu pris une baffe, parce que autant, je sais pas si vous vous souvenez, il y a deux semaines, j'étais particulièrement, presque positive au final, en train de dire qu'il s'était passé des trucs, que j'avais pris du plaisir, qu'il y avait de l'action, finalement. Et là, je trouve que le soufflet, redescend, mais vitesse grand V, quoi. C'est pas,
T'es prévenu.
Ah oui, je sais, mais, enfin, j'avoue que la claque a été là, la douche a été froide, ça a été un moment particulièrement éreintant pour moi, ces quelques chapitres. Donc j'ose espérer qu'il va se passer des trucs dans ceux d'après.
Écoute, tu m'en vois particulièrement désolé, parce que justement, l'enthousiasme, moi je trouvais ça super que tu sois aussi optimiste et positive.
Ça m'arrive pas beaucoup, donc ouais.
c'est surtout que nous deux, on était vachement pessimistes pour la suite, donc c'était bien d'avoir quelqu'un qui y croyait encore.
Oh ouais, je suis désolé les gars, je vous ai lâché.
Mais non, écoute, je pense que c'est Ernest qui t'a attendu et qui s'est dit, oh là, tu vas te calmer tout de suite, toi. Hein,
comment ça, elle est heureuse en lisant mes livres? De quel droit prend-elle du plaisir?
De quel droit? En plus, c'est une fille incroyable.
Elle n'a pas la moitié des références que je cite.
Voilà, on en a eu la confirmation, non, malheureusement.
Ouais,
désolé. Si ça se trouve, si Ernest écoute ce podcast, il va dire « Ah non, mais attends, mais j'ai écrit ces chapitres pour toi, c'est des films de filles !» Il va être d'autant plus déçu.
Désolé de ne pas être à la hauteur de tes espérances,
ah là là.
Ernest.
Après avoir été une fake geek girl, tu deviens une fake girl. Tu te rends
oui,
compte?
Oui, bah, c'est le chat qui se mord la queue, là. Je suis en pleine... Je suis en plein questionnement identitaire. Je vais faire une
en pleine introspection.
J'ai très peur pour les chapitres suivants. Ça, on le sait depuis le premier épisode du podcast. Non, j'ai très peur pour les fragments suivants, parce que j'ai remarqué, enfin c'est évident, il n'y a rien à remarquer, que l'énigme était plus ou moins la même. C'est-à-dire que on parle d'un trivia inconnu, en fait, qu'on peut consulter que sur IMDb ou Wikipédia, comme quoi, oui, tel machin, en fait, était supposé être comme ça, mais que ça a été remplacé au dernier moment. Donc, entre l'histoire de Ninja Princess qui devient un ninja et donc cette fin, en fait, changée du film de John Hughes, j'ai peur, en fait, qu'on se tape que des trucs comme ça pendant tous les autres fragments, et ça va être un peu chiant, en fait, du trivia halluciné pendant tous les prochains chapitres, ça va être relou.
Mais tu as tout à fait raison, et en plus même le schéma se répète, c'est-à-dire que à chaque fois c'est un des personnages qui s'avère être un expert pile dans le domaine et donc qui a le trivia, et les autres qui se contentent de suivre, quoi. Donc du
mais
coup,
c'est vraiment en plus de niche, quoi. C'est même pas un truc sur lesquels ils peuvent échanger. C'est limite la prochaine fois ça va être sur des têtes de perceuses de cette marque-là. Enfin vraiment c'est des trucs nerd de chez nerd, et j'admire ça. Moi c'est quelque chose qui me séduit beaucoup dans la vraie vie. Mais là, on s'emmerde, quoi. Enfin, je trouve que c'est tellement de niche. Il y a aucun échange, et puis il y a aucun. C'est pas comme si Wade y connaissait un petit peu, où il pouvait rebondir sur certaines choses. J'ai l'impression qu'il boit ses paroles en toute méconnaissance. C'est comme moi face à vous pendant ce podcast.
C'est pendant toutes ces pages, j'ai été du trivia chiant de podcast ciné. C'est-à-dire que c'est un peu comme ces mecs en soirée, en fait, qui viennent te parler de Super Mario 2 qui est un autre jeu là. C'est la même chose, c'est le même niveau de relou, et pourtant il y a pas plus relou que ça en vrai. Et
tu vois, encore une référence à Scott Pilgrim, sa première rencontre avec Ramona dans le film, c'est exactement ce qui se passe.
C'est vrai.
Il s'installe à côté d'elle et lui sort la blague, il lui sort le trivia sur Pac-Man.
C'est ça.
Tu vois, Scott Pilgrim avait tout compris.
Alors prédiction, l'un de ces deux trivia sera l'objet d'un des prochains fragments. Donc probablement pas celui de Nintendo, parce que Ernest Cline a peur des avocats de Nintendo, probablement. Parce qu'on a eu zéro jeu vidéo, zéro de leur jeu qui a été cité. Mais ouais, je sens bien le Pac-Man, Puckman dans une énigme ou un truc comme ça. Ça va être...
Ah, c'est chaud, hein, parce qu'il a déjà fait sa partie parfaite sur Pac-Man dans le précédent bouquin.
Ah oui, il a plus rien à prouver, c'est vrai.
Ah, il a... Peut-être, écoute, non, mais on verra, écoute... le ciel puisse te donner raison, on verra bien. Moi, je sais pas, je pense qu'il y a encore des domaines, parce que là, donc, on a eu les trivia jeux vidéo, on a eu les trivia cinéma. Alors, il nous manque la télévision, il nous manque la musique. Je pense pas que Ernest Cline nous emmène au théâtre, hein. On va tout de suite se calmer, donc je pense que ça, c'est...
À l'opéra.
Ouais, ça, c'est complètement inimaginable, mais je vois bien nous sortir des petites triviades derrière les fagots sur des séries télé ou sur de la musique pour la suite. En tout cas, oui, vos interrogations sont complètement légitimes, en tout cas vos craintes sont complètement légitimes, vu que là, ça fait effectivement deux fragments d'affilée où c'est du trivia complètement anecdotique, qu'un seul personnage connaît et que les autres se contentent de suivre. Et puis surtout, il y a un truc qu'on a oublié de dire, hein, c'est que le troisième fragment, ils l'ont pas encore.
C'est vrai.
C'est que là, on s'est envoyé trois chapitres de description, de name dropping et tout, mais que le fragment, on l'a toujours pas.
Mais c'est vrai
qu'au final,
je crois que visiblement, enfin, là où on s'est arrêté, Samantha a tué quelqu'un pour rien.
Pour rien, on sait pas, mais elle a buté le Ducky pour que le Robert Ducky Jr. puisse le remplacer. Mais comment est-ce que ça va, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Bah, on sait pas encore, vu que là, Wade a eu l'illumination. Ah, mais en fait, il faut aller voir Howard Hughes pour récupérer son script original. Donc peut-être qu'elle a tué quelqu'un pour rien, on ne sait pas, peut-être pas. C'est le moment où Artemis se rend compte qu'en fait c'est une grosse nulle et que c'est Wade qui a compris l'énigme. C'est ce moment-là où elle l'embrasse. Mm-hmm. Ah, quelle fatigue. Bon, sur ce, pour la prochaine émission, à moins que vous ayez encore des choses,
oui,
à dire, mais je pense qu'on a tout dit, hein. Je pense qu'on a tout,
si,
dit et redit. Hein,
oui,
on
je démissionne.
Si, moi, il y a une scène qui m'a beaucoup fait rire à imaginer, mais c'était désastreux.
Je t'en prie.
C'est que quand ils ont recruté Robert Downey Jr., ils l'ont appâté avec un sachet de weed.
Ah oui, c'est vrai, putain.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai,
et Sam,
c'est vrai,
connaît,
c'est
vrai, le truc par cœur et dit ouais, en fait, son bot, il était programmé de manière à ce que si tu lui proposes de la weed ou du sexe, bah il dit oui à tout. Combien de fois elle est allée dans ce monde? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais oui, comment elle sait ça? Tu te dis, elle a fait le sexe avec Robert Downey Jr. Obligé. Et sans l'ONI, donc elle rate un petit peu une expérience sensorielle quand même. Dommage. Maintenant, je l'imagine en train d'appâter Robert Downey Jr. avec un joint pour ensuite se le taper. C'est horrible ce que j'entends pas. Bon.
Voilà, j'ai plus rien à dire.
Mais effectivement, j'avais oublié ce détail, mais c'est vrai que c'était mémorable. On va, pour le prochain épisode, donc, dans deux semaines, s'envoyer les chapitres 17 à 21 inclus. Ça nous fait encore 5 chapitres. Et oui, je suis désolé.
Pas cool.
C'est encore une cinquantaine de pages. À vrai dire, c'est même un peu plus que ça. C'est presque une soixantaine de pages. C'est donc de la page 209 à la page 265. C'est donc 56 pages. Bon courage, hein, parce que on va en avoir besoin. Hein. Je le dis aux auditeurs, mais je le dis aussi à vous. Et je tenais à rappeler à quel point j'apprécie ce que vous faites, parce que sans vous, je serais en train de m'envoyer ce livre tout seul. Et grâce à vous, je me sens un peu moins seul. Tu vois, à chaque fois que je lis un passage méga chiant, je me dis c'est ma faute si c'est en train de lire ça, et je m'en veux un peu. Mais dans le même temps, je vous suis reconnaissant de partager cette aventure avec moi. Donc merci à vous, merci aux auditeurs, merci à ceux qui eux aussi s'envoient ça avec nous. Et puis, on se retrouve dans 15 jours pour essayer une fois de plus de donner la réponse à cette putain de question. Elle a qui la moto déjà?
C'est la moto de Canada dans Akira, c'est un skin original placé sur une moto.
Allez, à dans deux semaines.
Salut.
Salut.
Mais putain, chapeau les gars, quoi, on a tenu.
C'est putain, pas on a tenu presque une heure. Oh la vache. Oh,
ah,
la
c'était vache. Laborieux. Je suis deg parce que j'ai tellement pas eu de référence, tellement pas pris les perches qui étaient tendues par manque de connaissances que j'ai pas le sentiment d'avoir été particulièrement pertinente. Bon, c'est pas grave, je me rattraperai sur les prochains.
Non mais écoute, le fait que t'étais complètement paumé, en soi, c'est pertinent. Parce que ça montre à quel point le livre, finalement, parle à un certain public. Et dans le même temps, perd complètement toute une partie du public. C'est quelque chose que je me disais, autant dans Ready Player One, tu vois, quand ils se contentent d'aligner les titres de films, quand t'en connais pas un, c'est pas grave. Mais quand t'as trois chapitres entiers qui sont basés sur des trucs que t'es supposé connaître et que tu les connais pas, c'est horrible, quoi. Parce qu'à aucun moment, et ça c'est encore le problème de son écriture, à aucun moment il te permet de les saisir, ces éléments, ou d'avoir les clés pour comprendre pourquoi c'est important. Ils se contentent d'aligner les trucs et les clins d'œil pour les gens qui connaissent, mais les gens qui connaissent pas sont complètement laissés sur le bord de la route. Et du coup, bah voilà, toi, comme moi, comme Brice, parce que moi, même en ayant vu la moitié des films, je peux dire que même les films que j'ai vus, dont il fait référence, les anecdotes qu'il balance, ça me parle pas, quoi. Enfin, même en ayant vu les films, tu vois, sans connaître tous les trivia et tous les noms de tous les acteurs qui sont dans un plan en arrière. Enfin, je veux dire, mais ça intéresse qui de lire ça, sans déconner, quoi. Je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas que son éditeur ait pu lire ces trois chapitres et se dire « C'est bon, tu laisses.
» Une production, RPLU.